Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, attention, tout s'attrape. Les virus, les bâillements et même les fous rires. Et d'ailleurs, Viral, c'est le nom de l'exposition qui a démarré au Palais de la Découverte à Paris, que vous pouvez visiter jusqu'au mois d'août. Qu'est-ce qu'un virus? Comment ça se propage? La réponse avec nos invités. Alison Boiffard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la commissaire de l'exposition et à vos côtés, Tanguy Schindler, bonsoir. Vous êtes médiateur scientifique.
Il n'a pas encore de micro devant lui, donc il ne peut pas nous répondre.
Vous êtes avec nous dans le studio en sciences et vie, mais on salue nos invités quand même. En sciences de la vie au Palais de la Découverte, un virus, c'est pas seulement médical, ça ne concerne pas seulement la santé. C'est ça qui vous a intéressé notamment?
Oui, alors on ne parle pas que des virus, on parle de la contagion au sens très très large, donc au sens biologique bien sûr, mais aussi au sens social, émotionnel, on parle du rire, on n'est vraiment pas que sur le virus.
Et on va voir que tout s'attrape en fait.
Hein, tout s'attrape.
Ça va être ça le thème, restez avec nous les curieux.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
Une personne lambda se touche le visage en moyenne 3 à 5 fois par minute. Entre-temps, elle touche les poignées de porte, les distributeurs de boissons et les gens qui l'entourent.
RTL.
Nous avons donc un virus sans protocole de traitement ni vaccin à cette heure.
Jusqu'à 22h.
Si quelqu'un a pu trouver le moyen de militariser la grippe aviaire, c'est à ça qu'on va faire face.
Quelqu'un n'aurait pas à militariser la grippe aviaire. Les volatiles s'en chargent.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Contagion, un film, certes, avec Matt Damon, Marion Cotillard, vous avez pu voir, mais surtout une exposition qui s'est ouverte au Palais de la Découverte à Paris, et c'est jusqu'au mois d'août prochain. Vous pouvez y emmener vos enfants à partir de 9 ans, et c'est pour nous l'occasion, les curieux, de se poser des questions sur cette fameuse contagion, comment ça fonctionne, les virus, comment tout s'attrape. Et en studio, nous avons Alison Boiffard, qui est commissaire de cette exposition, et Tanguy Schindler, médiateur scientifique en sciences de la vie au Palais de la Découverte. Vous allez nous guider dans ce monde qui va un petit peu à 100 à l'heure, un monde scientifique, mais que grâce à vos mots et votre science, vous allez nous mettre, vous allez nous rendre ça absolument accessible. On va commencer par ce qu'on adore avec Thomas, ce sont les étymologies, les mots, nous, ça nous parle. Contagion, ça veut dire quoi?
Alors, contagion, ça vient du latin contagio, cum, ensemble, et tangere, toucher. En fait, ça décrit généralement la transmission d'une maladie par un contact rapproché d'un individu atteint, un individu bien portant.
D'accord, donc ça passe par le toucher, notamment?
Pas forcément, par un contact. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans l'exposition, c'est qu'il faut un contact approprié pour qu'il y ait contagion. C'est un des trois indispensables à la contagion.
Alors, approprié, ça dépend quoi? Ça dépend pas des... toujours approprié.
Ça dépend des virus, ça dépend... Le contact se fait différemment en fonction du style de virus, c'est
alors,
ça?
Alors, pour l'instant, on peut parler de maladie.
Ouais.
Donc, les trois contacts différents, c'est le contact rapproché, le contact direct ou le contact par un vecteur. Donc, en fonction des maladies, vous n'allez pas avoir besoin du même contact. On a un élément qui est uniquement sur ça pour que nos visiteurs puissent vraiment comprendre la différence entre ces trois contacts. Donc, ils vont manipuler des choses. Ils vont d'abord choisir des maladies et ils vont essayer de trouver quel est le bon contact pour qu'il y ait contagion. Donc, si par exemple, je vous donne la maladie, si je vous donne le rhume...
Normalement, c'est la gastro qui se balade. Donc,
voilà,
si vous pouviez la garder,
donc,
ça serait sympa.
Non, j'ai pas la gastro dans l'expo, mais j'ai le rhume, par exemple. Donc, d'après vous, est-ce que c'est le contact direct? Est-ce qu'un contact rapproché suffit? Donc, avec l'expectoration de petites gouttelettes, hein, quand on tousse.
Ah, je pense que oui, ça doit suffire, ça, non?
C'est un vecteur. Voilà.
Sidonie, elle tousse depuis le début de l'émission.
Voilà,
donc, j'espère
donc,
qu'elle a pas un rhume.
Ça fait 15 jours.
En même temps, elle se tourne de l'autre côté. Elle tourne pas, elle tousse pas vers moi. C'est sympa, quand même.
Il y a la campagne de vaccination aussi contre la grippe saisonnière qui a débuté le 7 octobre dernier. L'année dernière, l'épidémie a commencé en janvier, elle a été longue, ça a duré 12 semaines avec de graves conséquences. C'est une maladie très contagieuse.
Tanguy Schindler.
Ouais, alors ça a entraîné une augmentation des consultations entre à peu près, l'INVS donne à peu près 2,9 millions de surconsultations.
INVS, Institut National de Veille Sanitaire, c'est ça?
Ouais. Et ils ont estimé qu'il y avait une surmortalité qui était assez énorme. Habituellement, on est aux alentours... alors, c'est toujours compliqué, mais c'est toujours à peu près aux alentours des 10 000 cas de surmortalité. Là, on a franchi la barre des 18 000.
Lié à la grippe, directement
alors,
à la grippe.
C'est pas une mortalité. Alors, c'est ça, c'est que c'est toujours difficile d'estimer la mortalité de quelqu'un, la raison, la cause de la mort. Mais a priori, par rapport à ce qui se passe dans cette saison, ils ont des chiffres assez élevés.
Alors, la grippe, ça se transmet comment? Ça se propage comment? C'est quel type de contact, Alison Boiffard?
Alors là, on est dans un contact rapproché. On n'a pas besoin de contact direct. C'est comme le rhume. On est sur un virus. Dans l'exposition, on a un élément qui parle justement de la grippe et d'essayer de maîtriser une grippe saisonnière avec à disposition un vaccin et un antibiotique. Et en fait, ça explique que pour pouvoir combattre une maladie, il faut savoir à quoi on s'attaque. Et dans le cas de la grippe saisonnière, c'est un virus. Donc l'antibiotique ne sert absolument à rien. Ça ne lutte pas contre le virus. Donc la seule protection pour enrayer cette épidémie de grippe, c'est de vacciner les personnes qui ne sont pas encore tombées malades.
D'accord, donc ça c'est un conseil important puisqu'on est en pleine campagne de vaccination. Voilà. Il y en a un autre, moi je voulais croire que je suis, je sais pas si je vais dire obsédé, mais en tout cas par la gastro, mais là en ce moment j'ai vu les cartes de France avec la gastro qui se répandait un peu partout, département par département. Donc il y a un conseil qu'il faut donner absolument, c'est quoi ? Parce que moi je l'applique depuis 3 jours.
Seulement depuis 3 jours ?
Oui, c'est peut-être un peu tard, merci de me rassurer. Non, mais je ne suis pas trop hypochondriaque, ça va, mais donc il faut se...
Laver les mains.
Se laver les mains, voilà.
Ouais, gros vecteur, ouais, c'est ça, c'est qu'effectivement on va le transmettre. Dès qu'on va toucher un objet, on peut éventuellement transmettre un certain nombre de virus ou de bactéries.
Ça veut dire que le virus de la gastro, il va rester vivant un certain temps sur une poignée de porte, par exemple, sur
une barre de métro aussi.
Sur une barre de métro,
c'est possible. Après, ça va varier.
Même si on l'effleure.
Alors l'effleurer peut-être pas, parce que
c'est un contact prolongé.
Non, en fait, on va le récupérer sur les mains, puis après on va se toucher la bouche. Voilà, donc c'est toute cette chaîne-là, en fait.
Et alors, du coup, vous n'avez pas répondu à la question. Il reste vivant longtemps ?
Alors, en toute honnêteté, je ne sais pas. Ça varie en fonction des virus.
D'accord.
Par exemple, pour un très très connu, c'est le virus du sida. On savait que ça avait une durée de vie d'à peu près sur un support métallique d'une demi-heure.
D'accord.
Et en plus, on sait que ça dépend des types de supports. Le cuivre, par exemple, est assez bactéricide. Donc
il va détruire la bactérie du virus.
Dans votre exposition, vous racontez aussi une histoire, vous racontez plusieurs histoires, mais une qui se déroule en 2014 en Sierra Leone. C'est une guérisseuse qui prétend pouvoir guérir les malades infectés par le virus Ebola. Que se passe-t-il ensuite ?
Alors oui, ça c'est une de nos anecdotes. Donc bien sûr, cette prétendue guérisseuse ne guérissait pas de la maladie, mais comme des personnes malades d'Ebola sont venues la voir, elle a été à son tour contaminée, elle en est morte. Et Ebola a la particularité de pouvoir être transmise même après la mort. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui ont contracté la maladie à ses funérailles et qui ont du coup pu transmettre la maladie à d'autres à leur tour.
Donc c'est l'extrême inverse. Voilà. Elle prétendait guérir et elle a au contraire transmis la maladie. Est-ce que les mathématiques sont utilisées pour lutter contre les virus ? Et si oui, comment ?
Alors, Tanguy Chimla. Oui, ils vont être utilisés en fait pour prédire. C'est-à-dire, à la fois, on va se poser la question de savoir quand on a, par exemple, une épidémie qui commence, quelle qu'elle soit, on va essayer de prédire en fonction de modèle. Alors, on peut se poser la question de savoir si les gens sont immunisés ou pas, si on a la maladie, s'ils sont... contaminable, et du coup on va avoir des modèles. Donc il y a un certain nombre de modèles prédictifs et qui vont permettre d'établir la propagation de la maladie en population et essayer du coup de mettre en place des solutions.
Et on apprend aussi que la population, on est divisé en 3, on n'est pas égaux finalement, en 3 catégories, c'est ça, face à la contagion au virus ?
Alors ça, c'est vraiment dans le modèle mathématique, parce qu'en fait, quand on veut étudier des maladies, on ne peut pas transmettre la maladie aux gens pour étudier comment ça va se passer. Donc on prend un modèle mathématique et on étudie par rapport au modèle mathématique. Donc les 3 catégories dont vous parlez, on les appelle avec des initiales. S, c'est sensible, c'est susceptible de tomber malade. I, c'est immunisé, donc parce qu'on a déjà contracté la maladie et puis on ne peut plus l'attraper à nouveau, ou bien parce qu'on a été vacciné, ou bien parce qu'on est mort, parce que pour le coup, on peut plus, pour la plupart des maladies, on ne peut plus la transmettre. Mmh. Et dernier, c'est le R, c'est... j'ai dit n'importe quoi, le I, c'est infecté. C'est quand on est contaminé.
Donc,
voilà. Et le
S, sensible,
c'est résistant.
I infecté, R résistant.
Voilà.
Donc là, et en fait, on n'y est pas. C'est après coup qu'on classe les Français par catégorie.
Ça permet, par exemple, de trouver. Donc, en fonction des maladies, on peut avoir une maladie avec un schéma SIS, donc d'abord sensible, puis infecté, puis à nouveau sensible. Mm-hmm. C'est le cas de votre gastro. C'est pas parce que
je ne l'ai pas encore. Vous allez me porter l'œil.
Parler d'un rhume, c'est pas parce qu'on a attrapé un rhume et qu'on est guéri qu'on ne peut plus l'attraper. Il y a le modèle SIR, par exemple la grippe saisonnière. Quand on a attrapé la grippe, quand on est remis, on ne va pas l'attraper. Enfin, pas la même. Ça ne nous protège pas pour l'année d'après, par contre.
Dommage.
Voilà. Et puis, on a un modèle SI où on va rester infecté, comme par exemple le virus du sida.
Alors les virus font peur, et même ceux des extraterrestres. Allons, figurez-vous, bon. On vous raconte pourquoi dans un instant, les curieux.
Vous écoutez RTL.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Tout s'attrape des Tout s'attrape des microbes au fourrireux. On explore le monde de la contagion et des virus à l'occasion de l'exposition qui a démarré au Palais de la Découverte à Paris. Et pour nous guider, Alison Boiffard, qui est commissaire de l'expo, et Tanguy Schindler, médiateur scientifique en sciences de la vie au Palais de la Découverte. Alors, est-ce qu'on est tous égaux, tous concernés par la contagion?
Non, Tanguy clairement, Schindler. On n'est pas tous. On va avoir différents terrains, des gens qui sont plus sensibles à être contagieux. Alors, quel que soit le sujet, c'est-à-dire à la fois pour les virus et les bactéries, on n'a pas du tout les mêmes terrains, on le sait très bien. Mmh. Il y a des gens qui vont être très très sensibles, qui vont attraper tout ce qui passe, d'autres pas du tout. Il y a un des facteurs qui joue, la testostérone par exemple. Les hommes seraient un peu plus résistants a priori. Ça serait un des critères de choix chez les animaux. Les crêtes rouges chez les coqs seraient liées à la production de testostérone. C'est une hypothèse. Mmh. Et que du coup, ils seraient du coup favorisés... et plus intéressant pour les femelles parce qu'ils auront un meilleur patrimoine peut-être génétique du coup, et voilà.
Donc c'est vrai pour les bactéries, c'est vrai aussi pour, je sais pas, le fou rire ou le bâillement, on n'est pas tous égaux, c'est ça?
Exactement. Pour la petite histoire, donc par exemple si je dis bâillement, il y a peut-être certains de vos auditeurs, rien qu'en entendant le mot, qui vont commencer à se mettre à bâiller, même s'il est tard, on aurait pu le faire à 10h du matin, ça aurait été la même chose. Ouais. Personnellement, je suis entouré de collègues, dès qu'on dit bâillement, dès qu'ils entendent le bruit d'un bâillement, ils se mettent à bâiller tout seul.
Qu'est-ce qui déclenche le bâillement, à part le
fatigant,
à part la contagion, il est parti là. Il va peut-être s'endormir bientôt. Est-ce que c'est, moi je croyais que il y avait un côté grégaire, c'est-à-dire que on est de la même bande, du même groupe.
Il y a une
on se ressemble quoi.
Il y a une explication sociale. Ah, par exemple, si moi je baille dans une pièce et je connais personne dans la pièce, il y a moins de chances qu'il y ait quelqu'un qui baille. Et par contre, si on est à une proximité, et par exemple peut-être si un jeu de séduction, il y a peut-être quelque chose de sexuel derrière le baillement.
Parce qu'on voit toutes vos dents, c'est ça? C'est quoi? Je comprends pas.
Non, c'est, alors il y a pas, j'ai pas l'explication du pourquoi, mais oui. ça jouerait dans la séduction. Donc ça serait un vrai outil social.
Alison Boiffard, je disais tout à l'heure, les virus effraient. Alors ça vous gêne un peu parce que les virus ne sont pas qu'effrayants, mais c'est vrai que maintenant qu'on les maîtrise, qu'on en maîtrise certains mieux, c'est plus facile évidemment. Mais par exemple, on est le 16 juillet 1969, c'est le jour du lancement d'Apollo 1. Et là, les États-Unis vont adopter une loi. Laquelle? Et eux, ils ont peur des virus.
Oui, mais on a raison à cette époque. On se demande bien ce qui va se passer en revenant de la Lune. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en quarantaine les spationautes qui reviennent pendant 21 jours pour voir ce qui se passe. Voilà, donc c'est... on ne sait jamais. Au cas où, il y a des virus extraterrestres qui viennent.
C'est-à-dire de claquer la bise à une extraterrestre, à devenir, ou alors un virus qui se balade dans l'espace, comme ça, dans l'air?
Comme on ne sait pas encore s'il y a eu de la vie ou pas, s'il y a de la vie ou pas sur la Lune, on ne sait pas s'il y a des virus ou des choses qui sont potentiellement dangereuses pour les humains. Donc c'est une mesure de précaution que cet isolement de 21 jours. Et quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas eu de vie sur la Lune, cet isolement a totalement été abandonné.
Ça veut dire que pendant les premières missions, on l'a pratiqué. Il passait 3 semaines. En fait, c'est il fallait ça. Une loi. Pourquoi? Parce qu'on les privait de liberté d'une certaine façon.
Alors ça, je ne suis pas allée aussi loin.
Parce que c'est
ça.
Surprenant de faire voter une loi pour la quarantaine.
Ouais. Mais il y a une loi inverse aussi qui a été votée, c'est que les Américains ne veulent pas être contaminés, mais ils ne veulent pas non plus contaminer l'espace.
Ben oui, c'est intéressant, c'est qu'on va faire des prélèvements sur Mars par exemple, avec des sondes qui viennent de la Terre. Comment on peut être sûr que les prélèvements ne sont pas contaminés par les humains? Donc il faut faire très attention, il faut que toutes les sondes soient stérilisées avant de partir pour être sûr qu'on ne va pas contaminer et fausser les résultats.
Alors des virus, on n'en a pas trouvé dans l'espace, en fait, en tout cas pas encore, mais sous la glace, oui. Où et pourquoi? Racontez-nous cette histoire, Tanguy Schindler.
Alors, tout simplement, c'est en Antarctique. Il y a un lac qui n'a jamais été accessible pendant plusieurs millions d'années, qui est le lac Vostok. Et on a été faire des prélèvements dans ce lac, alors de manière assez intéressante, puisque l'idée, il avait été préservé, donc aucun contact avec l'air et aucun humain. Et du coup, ils ont fait une technique de forage qui a été développée par les Russes. L'idée, c'était de recycler l'eau. Qui était quand il forait, donc l'eau se liquéfie, la glace se liquéfie, donc ils lavent l'eau à l'eau de Javel, ils la resolidifient au-dessus, ils descendent petit à petit dans la glace, ils vont faire des prélèvements, et là ça a permis de récupérer donc un milieu qui avait jamais été en contact avec nos populations, et ils ont découvert des micro-organismes, donc des bactéries...
Donc des virus inconnus?
Alors, non. Ouais, pas... des micro-organismes. Alors, c'est pas forcément quelque chose de contagieux qui va nous rendre malades. C'est des êtres vivants qui n'étaient pas encore présents à la surface du globe, en tout cas décrits par l'homme.
Bon, on l'a compris, la contagion, elle n'est pas uniquement biologique, elle peut également être sociale et virtuelle. Forcément, à l'heure d'Internet, on va parler de vidéos virales et de buzz. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Règle numéro 1, évitez les zones peuplées. Règle numéro 2, si vous êtes en contact avec d'autres personnes, considérez qu'elles sont infectées.
RTL.
Restez où vous êtes.
Règle numéro 3. Le virus peut survivre sur n'importe quelle surface pendant 24 heures. Ne touchez jamais rien sans l'avoir au préalable désinfecté.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ça va aller. Ça peut faire peur, les virus, surtout dans un film américain qui s'appelle
pour.
Infected.
Ah oui, effectivement.
Et nous, on parle d'une expo à Paris, au Palais de la Découverte, virale, du microbe au fou rire. C'est ça qui nous a intéressé aussi, tout ça.
À chaque fois qu'on dit fou rire, il y a André qui envoie.
Je suis tellement drôle qu'on est obligé d'enregistrer des fou rires.
Moi, je peux rire spontanément aussi, si vous voulez.
Alison Boiffard, ben, vous forcez pas. Hein. Vous êtes la commissaire de l'exposition, de cette exposition. Et Tanguy Schindler, vous êtes le médiateur scientifique du Palais de la Découverte. Justement, ce rire, il est contagieux au même titre qu'un virus.
Oui, le rire est quelque chose de très, très contagieux. Voilà, pareil, c'est aussi quelque chose de social. On va rire. Il y a des chercheurs américains qui sont amusés à observer des gens dans la rue et ils ont montré qu'il n'y avait que 20% des rires qui étaient liés à de l'humour. C'est-à-dire 80% liés à, et, par exemple, une phrase fréquente avant d'un rire, c'est bonjour, comment ça va?
Ce qui... Ah oui?
Ah ouais, ça, c'est...
Et en fait, regardez, ça marche. Le rire a une autre valeur. C'est une valeur, par exemple, liée pour lutter contre le stress et réduire les tensions.
Ah, ça veut dire que presque, en fait, par exemple, même un rire nerveux, c'est pour se libérer d'une tension, c'est ça?
Exactement.
On va ricaner et ça
ouais.
fait du bien.
Oui.
Mais bien sûr, c'est...
Plus on est proche des gens et c'est un moyen aussi de se rapprocher des gens, de rire ensemble. C'est un moyen de créer un groupe, de se fédérer autour de quelque chose.
Alors, il n'y a pas de rire bête finalement, parce que parfois on dit oh, c'est un rire bête, non?
Non, c'est.
Et que des rires qui
non,
font
c'est,
bien.
C'est, voilà, c'est exactement ça. C'est l'idée de créer un lien, de créer quelque chose.
Et puis, il y a un bon rire dans une salle de cinéma, ça peut entraîner la salle.
Oui, et il paraît que vous êtes assez pro.
Moi, je suis pas mauvais dans le genre. C'est-à-dire que quand je ris, je peux avoir un rire très communicatif, ça marche.
Il y a des gens qui ont des rires qui marchent très très bien. Ouais.
Et il y a des séances de rigolothérapie aussi. Vous y croyez à ça?
Alors, est-ce que j'y crois? C'est une question. Personnellement, je n'ai pas de données. Donc, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Pas de données pour moi. Voilà, mais je ne priverai pas les gens d'essayer de.
J'en ai fait
un,
moi, de cours de rigolo. Je ne sais plus comment on appelait ça.
Rigolothérapie.
Il y a un autre mot aussi.
Yoga du rire aussi.
Yoga du rire. Exactement.
Ça, c'est pour les intellos, ça.
Au cœur du parc de Vincennes. Et en fait, on était en rond. Et puis, on était en jogging. Et puis, il fallait commencer à rire. Mais c'était un peu particulier. Ça faisait du bien. Mais quand vous ne connaissez pas les gens et que vous riez un petit peu sur commande.
Moi j'adore
faut
ça.
Vraiment entrer dans le. Bah,
je fais ça dans des dîners où on s'ennuie. D'un seul coup, je dis allez, séance de rigolothérapie. Alors ils me regardent comme un dingue, hein, évidemment. Et ça marche pas sur tout le monde. Il y en a qui partent. Mais en général, ça déclenche quelques rires.
C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 62. C'est une histoire que vous racontez dans votre exposition dans une école de Tanzanie.
Oui, alors c'était dans un internat de jeunes filles en Tanzanie en 1962, en janvier 62. Il y a trois jeunes filles qui ont commencé à rire, voilà, sans s'arrêter. Donc elles riaient, elles alternaient des crises de rire, des crises de pleurs par moment. Mmh. Mais ça a été un peu comme une épidémie parce que cette propagation du rire a touché de plus en plus de jeunes filles dans l'internat. Au point, alors j'ai les chiffres, deux mois plus tard, il y a 95 des 159 jeunes filles qui avaient ces crises de rire, donc en alternance. Ils ont fermé l'internat, ils ont renvoyé les jeunes filles chez elles, dans leur famille, en espérant que ça calme un petit peu le jeu, parce que du coup, de séparer les groupes, pas du tout, parce que ces jeunes filles ont contaminé après leurs proches, leur entourage, d'autres enfants, parce que c'était certainement plus les enfants qui étaient touchés que les adultes, au point qu'il y ait jusqu'à 217 personnes en avril-mai qui ont eu des crises de rire dans la région. Ils ont fermé plusieurs écoles. Il y a des médecins qui ont quand même fait des études, des ponctions lombaires. Ils ont vérifié si c'était pas une intoxication alimentaire. Il n'y a pas d'explication, donc c'est pas une épidémie au sens, c'est pas viral, c'est pas un virus, c'est pas une maladie.
Vous étiez où en 62, Thomas?
Je n'étais pas encore né. Mais écoutez, peut-être que j'ai été prendre des bonnes ondes dans cette histoire. Ça me fait penser au dernier spectacle de Bruno Salomon, dans lequel il joue un personnage qui rit tout le temps et qui voit tout le temps la vie en rose et qui est tout le temps positif et qui trouve tout génial même quand il y a des drames et qui finit par se rendre insupportable à tout son environnement. Voilà, ça me fait penser à ça. Très très beau spectacle, vous pouvez y aller.
Alors là, il est 21h44. Moi, j'ai plus envie de bailler personnellement que de rire. Quand est-ce que l'être humain baille pour la toute première fois dans sa vie?
Alors on a montré grâce à des échographies que le fœtus bâillait, donc in utero. Donc début du bâillement, pendant le début de l'existence de l'être humain.
Donc c'est pas seulement grégaire, c'est pas seulement en copiant ou en voyant quelqu'un bâiller à côté de soi, par définition.
Important. On parle par exemple... Alors pendant longtemps on a pensé que c'était lié à l'oxygénation du cerveau. Il y a des chercheurs qui ont montré qu'ils ont fait varier les quantités d'oxygène dans l'air. Ils ont montré que ça ne modifiait pas la fréquence de bâillement.
Ça dépend, si on ouvre très très grand la bouche, peut-être qu'on fait plus de courant d'air sur le cerveau, non ?
Il y a quelque chose qui est très simple, c'est vous bâillez quand vous êtes en avion pour réguler la pression de l'oreille interne. Ça serait aussi un des rôles, la protection de l'oreille aussi du bâillement.
Et le thème de cette exposition au Palais de la Découverte, c'est la viralité, donc c'est la contagion. Le bâillement, il est contagieux, donc vous dites il existe in utero. Est-ce qu'il est contagieux tout de suite quand on a, je sais pas, 2 mois, 2 semaines ?
A priori, les enfants commenceraient à être contagieux au bâillement à partir de l'âge de 5 ans.
Ça, c'est marrant, ça.
Donc, ils sont pas contaminés par le bâillement tout de suite. Ils font un certain temps pour qu'ils...
Donc, ça veut dire que c'est une construction sociale ?
Oui. C'est probablement lié à la maturation du cerveau. Derrière, on a des explications sur des structures cérébrales qui sont impliquées là-dedans. Il y a une hypothèse assez forte, on parle de neurones un peu particuliers qui vont fonctionner en réponse à l'observation de quelqu'un qui s'appelle le neurone miroir. Ça pourrait être lié à ça et la mise en place de systèmes de ce type-là.
Est-ce que les animaux bâillent aussi ?
Oui.
Oui ?
Oui, tous ceux qui ont des animaux domestiques peuvent faire l'expérience.
Un chat,
un chien, ça bâille. Ils peuvent même essayer de s'amuser.
Un poisson, ça bâille ?
Oui. Ouais, poisson, reptile.
On s'en rend moins bien compte.
Oui, on lui fait des bulles, quoi.
Ouais, voilà. Mais il y a ceux qui ont un chat ou un chien à la maison, ils peuvent essayer de s'asseoir devant leur chat ou leur chien, de bâiller. Et on ne peut arriver à contaminer les animaux domestiques. Parce que comme il y a un lien avec la proximité.
Alors écoutez, vous êtes chez vous, là, vous nous écoutez dans la curiosité, vous avez un chien ou un chat, allez hop, vous lancez-vous dans le test. Voilà. André Facetta, notre réalisateur, vous donne le là. Vous pouvez bâiller pour voir si c'est contagieux.
C'est intéressant cette histoire de neurones miroirs. Il y a d'autres réactions que ces neurones peuvent provoquer. Par exemple, je ne sais pas si on vous fait une piqûre et que moi ça me fait réagir. J'ai un petit tressautement comme ça, je me dis ah, ça oui. fait mal. Ça, c'est le neurone miroir qui met ça en branle.
Alors, on imagine que c'est les neurones miroirs. Je suis assez volontairement flou là-dessus, parce que ça n'a jamais été démontré clairement. On pense que c'est le système d'empathie. Donc voilà, c'est si on se projette sur quelqu'un, on projette ses douleurs, etc. Donc l'empathie serait en partie liée aux neurones miroirs.
Allez, dans un instant, d'autres exemples de virus, la rumeur et le buzz.
Vous écoutez RTL.
À l'occasion de l'expo du Palais de la Découverte à Paris, virale du microbe au fou rire, tout s'attrape, on découvre comment les virus, virtuels ou bien réels, se propagent avec Alison Boiffard, commissaire de l'expo, et Tanguy Schindler, qui est médiateur scientifique en sciences de la vie au Palais de la Découverte. On va parler des rumeurs. Non, le bâillement, ça suffit. C'est André Facetta, on est en pleine forme et on arrête de bâiller. Merci. Les rumeurs, alors les rumeurs, comment naissent-elles ? Tanguy Schindler.
Alors, l'origine des rumeurs, on ne les connaît pas bien. On peut imaginer que ça soit un phénomène aussi lié pour s'intégrer à un groupe. C'est assez sympa de dire j'ai une rumeur, j'ai quelque chose à rapporter sur quelqu'un.
D'ailleurs, on ne dit pas forcément c'est une rumeur. On dit oh, j'ai pris une info, j'ai entendu voilà. dire.
On fait son intéressant.
Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, ça serait une des possibilités de rumeurs. Il y a pas mal de sociologues qui sont penchés là-dessus. Il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qui va faire une rumeur ? Qu'est-ce qui va expliquer pourquoi elle se propage ? Pourquoi des rumeurs se propagent et d'autres ne se propagent pas ?
Parce qu'on a des meilleurs que d'autres. Il y en a d'autres qui sont à la mode ou qui excitent notre peur ou notre curiosité.
Ça tombe. Une rumeur va répondre à un contexte donné, un contexte social. C'est-à-dire que vous la changez de lieu, elle ne va pas forcément marcher. Donc c'est pour ça que c'est une bonne rumeur, parce qu'elle nous correspond à un moment donné.
Ouais. Et pourquoi
Une rumeur va être d'autant plus véhiculée que la personne qui nous l'a donnée va être crédible. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un que je connais pas très bien et qui a l'air de raconter toujours n'importe quoi, c'est une rumeur. Par contre, si c'est quelqu'un qui a l'air sérieux, que je connais, en qui j'ai confiance, on va avoir tendance à véhiculer cette rumeur beaucoup plus facilement.
Et qui le dit avec aplomb aussi.
Qui le dit avec aplomb, oui. Ouais. Et les rumeurs qui font peur sont certainement véhiculées aussi bien plus que les rumeurs rigolotes.
Vous donnez plusieurs exemples de rumeurs dans cette exposition au Palais de la Découverte à Paris, notamment, vous parlez de la rumeur d'Orléans. Vous nous racontez, rappelez ce que c'est ?
Alors, la rumeur d'Orléans, c'est qu'en 1969, il y avait une rumeur comme quoi les femmes étaient enlevées dans des cabines d'essayage. Elles étaient chloroformées. C'était certainement la traite des blanches. Voilà, donc cette rumeur, elle a pris quand même pas mal d'ampleur et elle se retrouve, elle a été sur plusieurs années, dans plusieurs villes. Mais la rumeur d'Orléans, elle a été étudiée par Edgar Morin, donc le sociologue, et ce serait parti d'une fiction, en fait.
Donc c'est une rumeur française ?
Orléans, oui. Ouais, celle-ci était française.
Donc c'est parti d'une fiction ?
Oui, c'est parti d'un récit, en fait, qui, bah, c'est comme la rumeur des extraterrestres qui sont arrivés alors que c'était quelque chose qui était entendu à la radio.
Ça, c'était Orson Welles qui fait ça à la radio aux États-Unis.
Après, c'est exactement le même principe. C'est que petit à petit, on commence à y croire et quand on y croit, on le véhicule.
Ah oui, la fiction qui dépasse la réalité, voilà. C'est ça.
Et pourquoi on a besoin de croire à nous, êtres humains, de croire à des rumeurs? C'est quel mécanisme qui se met en jeu? Je vous colle.
Alors,
là.
Mais on se raconte des histoires.
C'est-à-dire que dans les rumeurs qui font peur, il y a aussi une question de protection. C'est-à-dire que quand on me dit qu'il y a le feu, bah, je vais avoir tendance à pas aller vérifier et me faire cramer, mais dire qu'il y a le feu, moi je m'en vais, je me protège. Et puis du coup, bon, là c'est pas vraiment une rumeur, c'est juste une petite chose, mais les rumeurs qui font peur, ça peut être ça. Il y a des exemples.
On a montré par contre, à l'inverse, ce qui nous pousse à avoir des rumeurs, par exemple, ce qui nous protège un peu des rumeurs, c'est notre capacité à accéder à de l'information. C'est-à-dire qu'on a montré que le bagage culturel était carrément un facteur pour lutter contre la rumeur, parce que les gens peuvent dire, bon bah, déjà, il y a quelque chose d'absurde.
C'est l'esprit critique, finalement.
Ça va être l'esprit critique. Et plus on a l'esprit critique, et là, et ce que disait Alison est juste, on montre aussi que dans les sociétés qui sont très liées socialement, les rumeurs vont se répandre beaucoup plus vite.
Alors, ce que j'ai découvert dans votre exposition, c'est super intéressant, qu'il y a 48 heures de films postés chaque minute sur Internet, dans le monde évidemment, et qu'il y a certaines évidemment de vidéos qui deviennent virales, qui deviennent célèbres, qu'on va tous voir, on va cliquer, on va dire j'aime pas, et d'autres qui vont complètement disparaître. Qu'est-ce qui fait qu'une vidéo devient intéressante et fait le buzz?
Alors dans le cadre des vidéos, on parle souvent de vidéos virales, donc là on est vraiment dans notre thème. Dans l'exposition, on a un élément qui ne parle que de ça et qui est basé sur un livre qui est un livre au départ de marketing qui donne des indices pour créer sa propre vidéo virale.
Ah, donc, donnez-nous la recette.
Voilà, donc les critères, je vous les donne. Il y a l'émotion, donc quand on joue sur l'émotion, donc que ce soit le rire, ça marche très bien, mais aussi l'émotion, ça peut être la tristesse, l'empathie. Quand on nous raconte des histoires, quand les valeurs sociales, donc on est valorisé, quand on partage quelque chose, quand on partage une vidéo qui est porteuse de valeurs, forcément on est valorisé auprès des gens à qui on l'a partagée. Il y a aussi, la valeur pratique, par exemple, les petites recettes, vous avez vu ça passer ça sur les réseaux sociaux, les petites recettes en accéléré pour faire avec les œufs qui se cassent tout seuls, les choses comme ça.
Ouais, de
ça,
l'info, ça peut... quoi, quand on en apporte de l'info.
C'est pratique, on peut s'en servir, on met ça de côté, puis on va essayer de faire la petite recette. Ça peut marcher. Mais c'est pas parce qu'on a tous ces critères ou qu'on a tout misé sur un critère que la vidéo fonctionne. Des fois, on ne sait pas pourquoi les vidéos fonctionnent. Et c'est ça qui est intéressant.
Bah justement, on écoutait en fond sonore. On va l'avoir toute la nuit. Merci André Fazetta, la musique de Psy.
Ça y est, c'est parti.
On pleure pour deux jours en tête. Ça va pas nous quitter.
Je ne
l'ai pas encore, merci. Si Denis, ce clip de ce chanteur sud-coréen, c'est la vidéo virale plus partagée.
Encore aujourd'hui.
C'est combien déjà? On sait,
plus de 2 milliards 6 millions de vues sur YouTube.
D'accord.
En fait, cette vidéo, elle est sortie en juillet 2012 et en 6 mois, elle a dépassé le milliard de vues, ce qui a obligé YouTube à modifier l'affichage du compteur pour pouvoir continuer.
Ajouter des zéros.
Ajouter des zéros parce que c'était pas prévu au départ et on pouvait plus suivre l'évolution du nombre de vues. Donc ils ont été obligés de modifier et maintenant on en a plus de 2 milliards 6 millions, enfin
651 millions.
Enfin, on est vraiment. Et comme là ça a été passé, de toute façon on va retourner voir la vidéo parce qu'on s'en rappelle et puis du coup il y aura encore de plus en plus de.
Pourquoi il fait le buzz ce clip, on le sait, enfin.
Moi non.
C'était entraînant.
J'aime pas ce mot déjà. Moi, d'où il vient le mot buzz?
Voilà, ça vient du bruit des abeilles. En fait, l'idée c'est de quelque chose dont on entend parler avant qu'on puisse le voir. Donc, c'était le bourdonnement des abeilles.
Ouais.
Et donc, on entend l'abeille bourdonner avant qu'elle vienne nous voir. Et donc, ça a pris son buzz. Donc, après, on a formé plusieurs néologismes à partir de ça. Et c'est devenu ça. Donc, finalement, c'est une façon de parler du bouche à oreille. En fait, un buzz, c'est juste un bouche à oreille. Aujourd'hui, qui marche beaucoup. Voilà.
Et ce que vous dites, c'est qu'un buzz fonctionne selon un principe qui est que le consommateur de ce buzz, donc le spectateur, est le média, c'est ça? On véhicule le virus.
C'est-à-dire que vous avez tendance à propager. Alors, vous avez aimé quelque chose, vous avez tendance à propager. Et d'autant plus avec la structure des réseaux sociaux aujourd'hui qui permettent de vraiment d'envoyer à ces X centaines
d'amis. D'avoir un réseau qui est beaucoup plus grand. Parce qu'en fait, tout à l'heure, on a parlé des trois. J'ai évoqué les trois indispensables à la contagion, mais je ne les ai pas nommés, donc c'est peut-être l'occasion de le faire.
Allez-y.
Parce que c'est bon pour la contagion biologique, pour les maladies, mais aussi pour tout ce qui est contagion sociale dont on vient de parler. Donc pour qu'il y ait contagion, il faut qu'il y ait un agent infectieux, donc que ce soit un virus ou que ce soit un fou rire. Il faut un réseau, que ce soit un vrai réseau d'amis ou sur Internet, et il faut que ce soit un contact approprié, ça on en a déjà parlé.
Et des infos comme ça, on en a plein à découvrir, et des expériences à faire aussi dans cette exposition virale du microbe au fou rire. Tout s'attrape. Ça a démarré déjà au Palais de la Découverte à Paris. C'est à partir de 9 ans. C'est jusqu'à... Pouf, il n'y a pas d'âge.
Exactement.
Et c'est jusqu'au mois d'août. Merci beaucoup, Alison Bois Pharmacie.
Merci.
Tanguy Schindler, c'est la fin de cette émission.
Merci à tous les deux. Moi, j'ai attrapé que le fou rire ce soir, donc ça va bien. Ni bâillement, ni virus. De gastro, j'espère.
Récoutez-nous sur RTL.fr et justement, propagez notre émission La Bonne Parole à vos ennemis.
Vous écoutez RTL.